Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode consacré à Toys R Force. Didier avait tellement de choses à raconter que je n'ai pas pu me résoudre à ne sortir qu'une seule interview. C'est donc un épisode un peu plus déconstruit, plein d'anecdotes et d'enseignements sur le chef. On commence par parler de planches, surtout de rockers, la courbe longitudinale de la planche qui leur donne leur caractère. Didier explique comment il les conçoit et comment il les adapte à chacun.
Même si les mecs, ils avaient une 6 pieds, 18, un quart, de un quart d'épée, les gonzes, ils regardaient, ils voyaient pas la différence. Moi, j'avais des différences. Bah, c'était dans les rockers, dans les petits trucs, je réglais des petits trucs, suivant aussi, les députés étaient un peu comme ça, donc j'aplatissais un petit peu une zone à l'avant du pied avant, parce que des fois, il cherchait au contact comme ça, c'était son défaut. Après, Pastu, lui, très bon pied avant, avec du rebond, un pied arrière très lourd, et un contact pied avant ferme, puissant avec un pied arrière qui engage, donc tu peux lui mettre du rocker devant. Il avait un rocker de Fredo Robin à l'avant. Par contre, sous le pied arrière, rien à voir, c'était le plus tendu. Mais là où les autres, ils avaient 5-6, 5-8 de rocker, comme Fredo Robin, où le standard, ils étaient à 5-4, 5-5, 5-4 dans les appuis pied arrière, sur un pied de long, ils avaient 5-4 de 5-4, 5-5 de plongée, ben, Pastu, il avait 5.
Ben, les mecs. En quelle unité?
En dixième de millimètre. Où tu vas voir que là, t'as un peu plus de plongée sur un pied de long, t'as, mettons, entre 3 et 5 dixièmes de moins de plongée sur un pied de long. Faut aller le voir à l'œil, hein. Je le vois pas. Par contre, l'eau, elle le sent. Et la conversion de la pression dynamique sur l'appui du pied en pression statique, quand tu bloques une veine dynamique, une pression dynamique, il y a une conversion directe en pression statique. C'est instantané, c'est un vase communicant. Donc oui, quand tu as une veine dynamique, c'est la vitesse de l'eau, c'est la pression dynamique, c'est la vitesse de l'eau sous la planche. C'est pas la vitesse de la planche, c'est la vitesse de l'eau. Si tu fais un convergent, tu es obligé d'augmenter la vitesse de dessous parce que l'eau peut pas s'échapper. Elle peut pas s'échapper sur un vibotome, elle s'échappe sur des divergents. Et tandis que si tu fais du concave, double concave, t'es là, elle est prise. Elle est dans un étau, elle est obligée de s'éjecter derrière. T'as un gros pourcentage d'eau qui part sur les côtés, mais t'as quand même une partie de l'eau qui reste prisonnière dans l'écoulement, dans la veine. Donc elle est obligée d'accélérer sa vitesse, l'eau. Il y a une pression dynamique importante. Et sur une pression dynamique qui est plus importante, quand tu viens bloquer une pression dynamique, tu as une conversion instantanée en pression statique. C'est le tuyau d'arrosage. Tu ouvres ton robinet, tu vois qu'il gonfle. T'as pas d'eau qui sort. À peine tu ouvres l'eau, tu le vois qui se rétrécit et le jet s'en va. Tu visionnes.
Oui.
C'est la conversion de la pression dynamique en pression statique, vice versa. C'est un vase communicant.
Comment tu le bloques sur une planche?
Les concaves. Tu la canalises, elle dit, je peux pas partir là, donc t'as une certaine volume, un certain pourcentage d'eau qui peut pas partir sur le côté, donc elle augmente sa vitesse vers là pour s'éjecter, parce qu'il faut qu'elle s'éjecte. Et donc ça augmente ta pression dynamique. À partir du moment où ça augmente ta pression dynamique, t'as une baisse de pression statique. C'est un vase communicant. Alors ça, c'est intéressant pour l'avant. Et ce que j'ai vu. Sinon, si tu mets pas de charge sur un pied avant qui est en concave, t'as une ventouse. Donc c'est important de pas avoir des ventouses sur le pied avant parce qu'il prend la vitesse, tu montes pas en free fall, t'es en free fall comme ça, tu glisses. Moi, j'ai eu une planche comme ça, quand j'étais jeune, je faisais ça, elle était super bien, la stringer, mais si tu dynamisais pas le pied arrière, tu restais comme ça en suspension, mais toi, tu partais vers le bas, et la planche restait comme ça. Il fallait pas rester le mou du slip.
Ce que tu appelles pression statique, c'est ce que tu crées avec tes appuis quand tu surfes.
Voilà, la pression statique, c'est la pression atmosphérique, par exemple. Quand tu augmentes la vitesse dans un fluide, c'est proportionnel. Plus tu augmentes la vitesse dans une pression globale, une pression statique, si tu augmentes ta vitesse, tu augmentes de la pression dynamique, et c'est proportionnel. Plus tu augmentes ta vitesse, plus tu as une baisse de pression statique, c'est-à-dire la pression atmosphérique sur les surfaces, elle descend. Tu savais pas ça?
J'ai dû l'apprendre au lycée, mais j'ai dû l'oublier assez vite.
Quand tu roules, ouvre tes fenêtres.
Ouais.
Tu vois, la fumée se barre dehors, quoi. Là, donc voilà, c'est des, mais par exemple, tu prends une dérive, t'as entendu parler d'une aile d'avion.
Ouais, un petit peu.
Là, ici, t'es plat. C'est ce qu'on appelle intrado. Ça, c'est l'extrado. C'est bombé. Mmh. Une aile, le quartier bombé, elle est vers le haut. Pourquoi? Parce que là, tu rentres avec ton flux, ce qu'on appelle le vortex, il rentre ici, tac, il sépare, il se rejoint au même endroit. La dérive, elle se déplace dans l'eau, et l'eau, c'est comme si l'eau faisait ça. Elle sépare ici, et au final, les fluides se retrouvent ici. Par contre, là, c'est bombé. Si c'est bombé, le chemin, il est plus long, tu vois. Donc, le fluide, il est obligé de s'accélérer sur le bombé. S'il s'accélère sur le bombier, sur le bombé, tu augmentes la pression dynamique. Si tu augmentes la vitesse, tu as systématiquement une baisse de pression statique. Il faut l'accepter. C'est un Italien, Bernoulli, qui a fait la, il y a ça plus d'un siècle, il a défini cette fonction mathématique qui est assez sympa. L'importance, en fin de compte, c'est la différence de pression statique. Résultat, c'est une aile. Plus tu augmentes la vitesse dedans, plus elle est porteuse. C'est-à-dire, tu mets la dérive dans l'eau, sans rien faire. La pression va se faire suivant la profondeur que tu mets. Et quand tu mets de la vitesse dedans, la différence se voit. Et comme c'est un fluide qui est dense, donc avec plus de pression statique, eh ben, les différences se voient encore plus. Donc, du coup, t'as besoin de pas beaucoup de grosses voilures pour faire du foil, parce que c'est dense. Si tu veux faire la même chose pour te porter dans l'air, eh bien, il te faut une surface plus grande et il faut aller plus vite pour arriver à faire la différence pour que ça te porte. Et une planche, c'est toujours comme ça partout. Des fois, les mecs, ils font des planches avec des trucs hyper fins là derrière. Mais vraiment très fins. Hyper anguleux. Ah, ça rentre dans l'eau, mais ça sort aussi. Donc, il faut savoir garder les épaisseurs suivant les planches pour affiner le toucher, pour pénétrer dans l'eau. Mais il faut en même temps que l'eau, elle suce et qu'elle maintienne la planche dans le creux de la vague. C'est hyper important, surtout quand tu fais des guns. Enfin, partout, tout l'heure, c'est toujours important. Donc, il faut qu'en même temps que ça, je augmente de la vitesse, j'ai une courbe ici, et puis lui, il fait, t'en vas pas, reste là. Je te maintiens dans la partie creuse de la vague. Tu vois? Tout est comme ça sur une planche. C'est une mécanique d'esprit qu'il faut avoir. Et si t'es minutieux, que tu regardes que t'en as conscience surtout, et que tu règles bien tes lignes et tout, avec une connaissance, et aussi une bonne technicité pour arriver à être précis, bah, tu fais des bombes.
Par la suite, Didier me montre une planche, la Sharky, un shortboard dont je le laisse expliquer les particularités.
Ça, c'est mon modèle, le Sharky que j'ai fait pour mon fils. Et il me disait, ouais, je veux une planche qui décolle sur un mouvement. Alors, c'est pas à mettre dans les pieds à tout le monde parce qu'elle est un peu tendue, tu vois, ici. Elle a des veines à être prononcées, mais elle va vite. Si tu es puissant sur les jambes, elle drive, elle carve. Très bon dans le carve, mais elle demande des jambes. Des fois, j'ai eu deux personnes qui les ont...
Mais très fines, non ?
Moyennement appréciées parce qu'elles te remontent dans les pattes. Oui, mais seulement elles sont fines. Mais alors, t'en prends plein les jambes, quoi. C'est comme si t'avais une grosse board. C'est les veines sont, toute la mécanique des fluides est alignée, t'as un rebond, dès que tu mets un pied, bim, tu décolles. Alors, décoller, c'est pas forcément être trop épais, hein. C'est des fois les planches, les mecs, ils me disent, ah, mes fiches démarrent bien. Et ouais, ils démarrent bien, mais ils restent dans l'eau. Si tu montes trop sur l'eau, tu t'élèves avec la vague. T'es sur l'eau, mais la planche, elle s'en va pas. T'es obligé de pomper un, deux, et hop, elle s'en va. Ça, c'est souvent la planche trop épaisse. Une planche, il faut qu'elle monte au planning facilement, mais il faut qu'elle fonde de l'eau facilement aussi. Après, si elle fonde trop l'eau, tu peux coincer. Donc, il faut fondre l'eau, mais après, il faut des mouvements de rail qui te permettent de driver, d'avoir un confort, parce que le rail est aussi une surface de glisse. Et oui, quand tu carves, tu effaces toute une partie de planche, et c'est avec le rail que tu surfes. Donc ça, c'est important. T'es en surf en dynamique, t'es en désaxé, tu fais une rotation qui te permet de ramener la planche sur toi, t'es pas comme ça en ligne droite, sinon t'enterres. Mais c'est hyper important d'avoir, de travailler ces rails pour avoir des volumes, tout, qui te permettent d'avoir un confort, une conduite sur le rail, c'est super important.
On continue sur le Sharky, mais dans la salle de shape où Didier garde ses feuilles remplies à la main de cotes et de mesures selon lesquelles il construit ses planches.
Une planche, c'est ça. Ça, c'est ce Sharky. Donc, t'as la outline. T'as les roupures de rail ici. Là, ici, tu as les rockers de vanne. Alors voilà, tu vois, par exemple, on part du milieu, on est sur le rail, on a 6-2 de plongée avec 13-2. On part à l'avant, on a 6-3 avec un 17-6. On se remet à un pied du milieu, là où j'avais 6-2. Je regarde, j'ai 5-5, j'avais 13-2. Ah, par contre, j'ai 13-3. Ça, c'est rigolo. Après, je vais derrière, j'ai un 4-3 avec un 10-6. Un pied et demi, un pied 4-3, 10-6. Je descends un pied et demi. Tiens, j'ai encore 4-3. Un 17. Tiens, on va dire contre ces deux points, j'ai des vis-à-vis avec des cotes similaires, donc on peut dire que je suis sur une base de 4-3 entre les deux points ici.
Est-ce que j'ai le droit de dire que j'ai rien compris?
Très simple. Je montre avec ça. Je prends cet outil-là. Ça, c'est mon outil pour construire tous mes rockers. C'est pas une grande règle. C'est une petite règle. Donc, j'ai la planche. Donc je mets là-dessus, donc j'ai mes points de repère, j'ai mes points, c'est là qu'il faut être bon, il faut les bonnes lunettes. Et je vais me mettre là. Et là, j'ai une plongée. Combien tu lis toi?
5,5.
Non, en dessous de 5,5.
Ouais, entre 5 et 5,5.
Oui. Et là moi je dirais qu'il y a entre 5,2 et 5,3. Tu le valides?
Ouais, je ne peux que le valider là.
C'est pas évident, hein.
Ah non, je confirme.
Donc écarte-toi un petit peu. Voilà, ça c'est un 5-2. J'ai 5 mm 2. Peut-être un 5-2 fort, mais je choisis plutôt 5-2 que 5-3. Donc ici, j'ai un 11-2. Plus facile à dire. Là ici, j'ai ce point là. Je vous mets là. Alors, c'est magique les chiffres. J'ai un 4-8. Par contre, viens voir, c'est rigolo. Je le mets ici. Et là, j'ai un 11-2.
Qu'est-ce que tu as fait comme manip là avec la règle?
Je l'ai fait glisser de ce point-là à ce point ici. L'équilibre, il est ici. Là où j'avais 5-2, je l'ai mis. Là où j'avais 0, je suis passé à 4-8. Par contre, à un pied et demi, j'ai toujours 11-2. Les chiffres, c'est magique. Comme ça, j'aligne et j'équilibre mes courbures au fur et à mesure comme ça sur les planches. Et il y a des planches, je vais dire, mais là je vais mettre une inflexion pour donner un peu de tension. Donc je n'ai pas fait en 11-2, je vais faire en 11-1 ou peut-être en 11. C'est un truc que je fais avec beaucoup plus sur l'avant. Donc ça me donne un peu de dynamique sur la plate et sur la poitrine quand je rame. Je me casse les couilles à faire des petits dixièmes pour que les mecs ils sentent des petits trucs. Ça veut dire que j'ai une accélération de courbure. Et que plus tu vas devant, plus il y a de courbure, tu pars du milieu, tu vas vers l'avant, tu as une accélération, puis là tu fais une inflexion dans l'accélération, c'est-à-dire qu'il s'accélère moins sur des endroits. Donc du coup, tu vas avoir le 1 pied et demi qui va baisser de 2-3 dixièmes. C'est-à-dire qu'elle s'accélère la courbe, mais pas d'une façon linéaire. Elle s'accélère, mais en ralentissant. Et après, tu la réaccélères. Tu crées un planning ici sur la planche. C'est du spirit. C'est-à-dire ce que toi, tu vas sentir visuellement, que tu vas ressentir que ça va être difficile pour toi, que tu es quasiment invisible à l'œil. Moi, je le pose avec les chiffres. Je vais donner des sentiments à la planche, tu vois. Je vais donner des fonctions, de l'esthétique et de la vie d'une certaine façon. Ça s'appelle du sentiment. Je vais lui donner une expression dans son surf. Et ça, tu peux l'acclimater aux gens. S'ils sont plus ou moins pieds arrière, plus ou moins avant, si c'est des mecs du slip qui sont comme ça, bah, tu lui fais pas trop. Si c'est un mec, après si t'as un mec qui a un engagement sur le pied avant, bam, qui te met directement, tu peux lui donner un peu, tu vois, le mec il engage la poitrine directement dans la plante du pied avant. Ça, tu peux te jouer sur des concaves, sur des courbures qui sont un peu plus prononcées, parce que le mec, souvent ces gens-là, ils ont un pied arrière aussi qui est dynamique en élévation. Là, tu peux exprimer le surf des gens. Ben, c'est génial, hein? Mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de chiffres, c'est du travail, c'est du temps. C'est beaucoup de temps. Ou alors, tu t'en bats les couilles. Tu fais la planche, ok, c'est bon, allez hop, ça va le faire. Dans une certaine mesure.
On a également parlé de plein d'autres planches, notamment de la Flying Carpet et de ses dérives si particulières qu'il me montre dans le jardin de l'atelier.
Vous pouvez les voir dans le reportage photo associé à l'épisode.
Alors celle-là est importante. Fin des années 90, on nous a sorti ces dérives-là, qui s'appellent les curves. Et ces curves-là, elles sont arrivées sur le marché, c'est une dérive qui coûtait assez cher, FCS, carbone. Et donc là, il faut reprendre la mécanique des fluides. Ça, c'est une dérive avec de la flèche. T'as vu, il n'y a pas de rec, c'est assez droit. Et c'est un foil, en fin de compte, tu vois. T'as beaucoup d'angles ici. Imagine, t'as une dérive droite avec une flèche d'un côté. Tu vois, t'as une épaisseur dans la dérive qui fait ça. Donc, en fin de compte, t'as toujours la surface ici qui fait que l'eau, elle va devoir s'accélérer et porter. Mais elle est droite, la dérive. Elle peut être couchée avec du rec, du déport derrière, mais elle est droite. Donc, la différence entre les surfaces, elles y sont, mais il y a plus de surface évidemment là-dessus. Donc c'est il y a une différence de portance. Tu as une baisse de pression avec plus de surface. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu as une traction. Là, tu as une dérive qui commence à se coucher. Et quand je déploie, grosse différence de surface entre l'intrado et l'extrado. Parce que la combinaison de l'épaisseur, c'est-à-dire de la flèche sur l'extrado plus la courbure dedans, ça m'augmente d'autant plus la surface par rapport à l'intrado. Du coup, j'ai une différence de pression statique qui est beaucoup plus importante. Donc j'ai une dépression ici qui est plus importante. Donc ayant une dépression ici, j'ai une traction, une sustentation qui est plus importante. Donc, la dérive, elle accroche à donf. Mais à donf. Et ici, il y a un pote qui est commandant de bord chez Air France qui passe me voir et qui me dit « Putain, j'en voudrais de ces dérives. » Récemment, lui, il faisait 65 kilos. Moi, il faisait 67 kilos. Moi, j'en faisais à l'époque 113, 114, tu vois. Et là, j'ai dit « Non, laisse tomber, c'est pas pour nous. » T'as trop de portance, tu lui dis, quand tu accélères la vague, t'as un lift qui se fait par les dérives pour prendre la vitesse, et puis quand t'arrives en bas de vague, tu veux mettre la planche dans l'eau, eh bien ça devient dur. Parce qu'en fin de compte, t'as ce qu'on appelle par rapport à l'axe de la planche, t'as un moment. Le moment, c'est l'effort, tu vois. C'est-à-dire tu mets un poids, et si tu multiplies par le nombre de sections que tu désaxes, ben ce poids-là, il devient de plus en plus lourd. La balance romaine, t'as un poids étalonné ici, et toi, tu es obligé d'accrocher ton poulet et ton truc comme ça de plus en plus lourd. Plus tu mets le poids vers l'extérieur, plus tu as ton poulet, il faut qu'il soit lourd, quoi, pour condenser. C'est ce qu'on appelle le moment, c'est-à-dire c'est une masse qui est désaxée. Donc là, tu as un moment sur la planche avec une traction qui est beaucoup plus importante. Une succion, tu vois, une portance, tout. Quand tu veux briquer, que tu arrives en bas de vague, plein badin, que tu veux mettre la planche dans la vague, tu dis, ouah, putain, j'arrive pas à le mettre. Parce que tu as le chep et la dérive. Quand tu as une dérive droite, un thruster classique, tu as un moment aussi, mais moindre que celui-là. Et là, plus tu augmentes la vitesse, mais plus le moment, il est important. Plus c'est dur à mettre dans l'eau. Donc tu dis quoi? Ben, mais tu es obligé de temporiser en bas de vague, mettre un appui, tu l'as, il est hier, quand tu tournes, ouah, tu mets dedans, tu engages un peu plus de moment, tu mets dedans, ah, et là quand il va, tu n'as pas de rec sur les dérives, tu vois, il n'y a pas de rec, il n'y a pas de déport, donc ça reste assez droit. Et là tout d'un coup, la planche, elle fait ouah, tu remontes en haut à balle, et quand tu arrives en balle en haut, tu fais ça, tu veux faire le mouvement. Comme tu n'as pas de rec, tu n'as pas ces effets de déport, de stabilisateur sur les dérives qui sont les recs, tu vois, bah, tu fais ça. La planche, tu mets la puissance dedans et tu as la planche, bam, elle dérape parce que tu es léger. Mais si tu as 20 kilos de plus, ben là, tu es sur autre chose. T'engages, tu es un bon poulet là. Boum, tu y vas, ben ça y va parce que tu as de la force. Donc le moment, les efforts que tu as en plus, tu les mets dans l'eau. Que tu arrives, et quand tu arrives, donc du coup, elle te génère de la restitution d'énergie, parce que plus l'énergie que tu mets dedans, toi, tu le mets, plus ça se restitue à la sortie. Donc là, tu arrives devant, puis là après, tu réduis tes vitesses. Mais seulement, tu es un gros gabarit, tu arrives sur le tail de la planche, tu le mets dans l'eau. Donc tu dérapes moins qu'un petit gabarit, qui lui va devoir dynamiser plus que charger. Le gros, il va juste charger, il a de la masse, donc il charge un peu, c'est proportionnel, il met le tail dans l'eau, ça dérape pas. Tandis que le petit gabarit avec les dérives comme ça, si la vague elle envoie un peu, il se retrouve à l'ail. Il se retrouve un peu en free fall, en dérapage, et il fait des overturns, il fait des block tail qu'il veut pas faire. Enfin, c'est un block tail qui passe en sliding tail, il est perdu. Donc je lui dis, bah non. Je lui dis, du coup, les dérives, je lui dis, Bruno, c'est pas pour nous. Parce qu'on est trop léger. Ah ben, ah, c'est dommage, moi j'aime bien. Il me dit, mais pourquoi t'as ça sur ta planche? Ben, je lui dis, ben, avec les dérives, tout le monde vient les voir. Et puis moi, en même temps, je lui dis, tenez, allez, il y a une planche au toit. Ça, c'est un flying carpet. Mon pote, il me dit, ben, t'as qu'à faire une planche comme ça, là, le commandant de bord, là. T'as qu'à faire une planche pour. Je lui dis, mais moi j'aimerais bien voir ça. J'ai dit, ouais, mais pour faire ça, il faudrait faire une planche avec plus de mouvement derrière, qui permet de tourner plus facilement pour nous. Mais après, t'aurais une saucisse. Donc, la saucisse, il faudrait compenser par un hypersustentateur. C'est comme ça qu'on dit un hypersustentateur qui permet de, si tu mets vachement de courbes, tu passes sur des divergentes. T'as les saucisses, les planches, elles avancent plus. Donc, t'es là, donc ça allait bien, mais peut-être que les dérives font pas le coup. Donc, pour pouvoir pallier à ça, il faudrait faire un hyper sustentateur qui permet de compenser. Et le truc, alors, au début, je pensais faire un double concave, un truc comme ça, tu vois. Et l'autre, il me fait... Et puis, au fur et à mesure, je parle, je lui dis, bah, tiens, là-dedans, ça serait bien de faire un bonzer, tu vois. Et l'autre, il me dit, bah, vas-y, fais la planche. Je lui dis, ouais, mais dans quoi? Et qu'est-ce que tu veux qu'on planche? Mais je sais pas, tu te démerdes, tu fais une planche avec ça. Donc j'ai fait une 6-5, comme ça c'est une 6-4, j'ai fait une 6-5. Avec ce bonzer, tu vois, qui est toujours de 3,2 m, le bonzer, il marche très bien. Alors c'est ça qui est intéressant dans la mécanique des fluides, c'est que tu pousses sur la planche, le concave, lui, tu vas forcer le concave, qui lui en vanne dynamique, tu viens le bloquer en poussant avec les pieds, donc tu viens bloquer la vanne dynamique, avec ton pied, tu charges dessus, tu bloques la vitesse du fluide, elle réagit par une poussée dynamique. C'est le tuyau d'arrosage. Oui, tu vois, c'est le tuyau d'arrosage, en fin de compte, les conversions de fluide. Et après, je diverge ici. Si tu mets pas de charge, c'est le divergent qui offre le plus de pression statique. Alors, c'est important, parce que là, je réduis mes vitesses, je diverge, donc je reprends la pression statique. Donc, je suis en allègement comme ça, je pousse, j'allège, et là, la planche, elle fait ça. Pop, elle remonte toute seule. Pim, elle est dynamique. Parce que justement, là aussi, j'ai pas de pression ici, je remets du pop juste sur le tail. C'est assez intéressant. Et après, j'ai fait de la largeur de vent, donc de la gamelle. C'est de la gamelle, de la cylindrée, quoi. Donc tu fais ça, tu appuies devant, ça glisse, c'est assez plat. Donc ça prend l'énergie, ça glisse bien. Et dès que tu dynamises, tu es sur le bonzer. Tu fais rien, déjà tu es là. Et si en plus tu dynamises, tu le sens que c'est là, quoi.
On parle ensuite du gun qu'il a chépé à Hawaï et de comment chéper un rail lui a permis de travailler chez Lamination Hawaï.
Et ça là, elle est une histoire parce que j'étais à Hawaï et je l'ai chépé chez Carper. Et tu vois, surfboard Hawaï. Et là, il y a écrit JR, Jack Reeves. Tu vois qui c'est, Jack Reeves?
Ouais.
Voilà. Et surfboard Hawaï, c'est Brewer. Donc cette planche, premier gun que je fais dans ma vie, c'est au-dessus. J'avais fait des planches à 7-600 guns. C'était des semi-guns, on va dire. Des grands shortboards. C'est quand même un grand shortboard celui-là aussi. Mais elle fait, j'ai acheté un 8 pieds 11 et j'ai tiré dedans une 8-9. C'est Maxi le pain le plus grand que j'ai pu choper à Hawaï parce qu'ils étaient réservés les autres. Donc,
ah oui, d'accord.
Ça en rack, je pouvais acheter ça, donc j'ai acheté ça. Donc cette planche, un jour, je l'ai fait chez Carper. J'arrivais avec mes quelques sélections de courbes que j'avais, pas tout, mais quelques sélections. Vous savez ce que je pouvais faire à peu près. Et je lui ai dit, bon, voilà. Et puis, j'ai chépé la planche chez lui. Il me dit, tu veux utiliser mes templates? Je lui ai fait, non. Non, bon, comment tu vas faire? T'as des templates? Je lui dis non. Je vais en faire un. Il m'a regardé comme ça. Lui, il savait que je faisais des belles planches. C'est lui qui m'a dit, il faut que t'ailles à Hawaï. C'est lui qui m'a dit, il faut aller à Hawaï. Parce que là, il voyait quand il venait à Roglas, il voyait des planches à moi. Des fois, il se posait la question, c'est qui le mec qui fait ces planches-là? Il dit, tu fais de belles planches. Ça fait plaisir. Et donc, j'ai chépé cette planche-là. J'ai attrapé ma petite calculette, je me suis servi, j'ai regardé combien j'avais de cordes, combien je voulais de flèches à des endroits, donc je suis passé par une racine carrée de la flèche, et donc ça m'a donné un rayon qui était de 4,2 m sur des points clés. Là, je me dis, bon, j'ai 4 mètres de points de rayon. J'ai dit, je vais mettre un peu plus. J'ai mis 4-6 et après, j'ai raccordé, tu sais, avec, en divisant la planche suivant des secteurs en utilisant ben, le chiffre d'or. Ça marchait. Léonard de Vinci l'utilisait, donc j'ai fait pareil. Donc j'ai pas fait un 56 et quelques, j'ai fait un 6, quoi. Et puis après, j'ai fait mes trucs, et bien là, je vais faire ça. Après, je vais activer ici, je vais diviser, puis j'ai fait ma outline comme ça, avec les courbes que j'ai données. Puis...
Eh bien, c'est sympa, hein, ça glisse bien, hein. Tu vois, c'est beau.
Ce sont que des chiffres. C'est que des chiffres. On me dit, pourquoi le tu vois, c'est vraiment un baby square, hein.
Ouais, ouais.
Il fait
presque un pintail, mais...
un pouce un quart de large. Mais parce que la courbe, elle passe bien comme ça. Donc on le laisse comme ça. C'était une super board. Hein. Donc cette planche, je l'ai donnée à glacer à Jack Reeves. Je l'ai échappé chez Carper. J'ai fait mon truc. J'ai sorti mes points. Il m'a vu taper mes rockers. Il m'a dit, tu fais quoi là? Lui, il faisait à l'œil. Je dis, non, je ne vais pas faire à l'œil. Bon, pareil, hein, j'ai mes points avec toujours, hein, tu vois, pareil. Les points qui passent, tout, je tape mes roues. Donc j'ai des mouvements, tout est contrôlé avec du mouvement derrière, tu vois, c'est doux. Et puis j'ai fait des rails modernes de l'époque qui étaient avec du bombé ici. Mais tu vois, c'est une planche qui rentre très très bien dans l'eau. En fin de compte, je n'ai rien inventé. J'ai regardé ce qui se faisait. Donc à l'époque, c'était une planche nonos, tu vois, qui était assez étroite devant, mais avec beaucoup de mouvements. Et là, en fin de compte, ça c'est génial parce que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'enfourner, de passer le nez sous l'eau, il ressort. Ah oui. Donc en fin de compte, c'est pas un 8-9 que t'as, c'est un 8-5, 8-4. Mais qui lui a l'avantage, au lieu d'avoir les courbures que t'as ici, quand tu engages dans l'eau, ben, c'est des courbures tendues là ici, tu vois. Elles sont tendues ici. Ça va vite, c'est pas trop en courbe. Donc la planche elle est là, mais par contre tu as des mouvements qui sont tendus ici, là où tu aurais d'autres guns qui seraient plus larges mais plus courbes. Tu vois, sur certaines parties avec plus de courbure ici et là, tu es plus tendu. Donc en fin de compte, ça a une pénétration dans la vague qui est très intéressante. Surtout dans le clapot. Très très bonne planche dans ce qui est clapot. Et tu as un slide concave, c'est une époque. Mais, hein.
Du coup, ce rab de longueur, il te sert à quoi?
Eh bien, il te sert rarement. Il te sert rarement. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ici, tu as une pénétration du rail. Là, ici, t'as ton eau, tu l'as fait pénétrer ici. Bah, tu es moins courbe. Donc, comme tu es moins courbe, tu fends l'eau, tu as déjà plus de vitesse dès le nose. Tu vois ce que je veux dire? L'eau, elle est dans ce sens-là. Donc, plus tu te mets dans le sens de l'eau, plus ça y va. Plus ça fend l'eau et tout, mieux c'est. Donc en fin de compte, tu es sur des appuis ici avec des lignes, tu as une section, tu vois, qui est là pour mettre la planche dans l'eau. Tu as un truc qui fuse derrière mais qui est tendu, tu vois. Et il n'y a pas trop de courbe, donc ça fond l'eau, ça va hyper vite. Il y a du mouvement, c'est une planche qui a plus de mouvement que d'autres qui rentre dans l'eau, mais putain, elle est au dogging. Toi, elle est au... Elle est comme ça la planche. Elle va vite, et puis dans le contrôle, tu fais des carves là. Tu rentres dans la vague, elle est facile à surfer, tu vois. C'est pas les mieux pour monter au planning, pour aller au plus vite. Quand ils y sont, c'est d'une facilité à surfer, ça fend la vague, le clapot, ça te le fend, tout, c'est bonnard. Tu rebondis pas, tu tapes pas dedans, et elle a une souplesse d'utilisation avec des accélérations, elle se surfe un peu différemment des autres. Mais ça reste un gun. À 3,50, à 3 mètres, elle commence à bien fonctionner. 3,50, elle est au taquet. 3,50, 4 mètres, elle respire la planche. J'étais jeune, là, je pouvais aller faire ça. Je m'amusais, puis je l'ai fait essayer. Il y a plein de gens qui l'ont surfé, cette planche-là.
Ah oui?
Oui, donc tu vois, elle s'est chopée. Tabriwa, il a regardé le truc, il a dit, ouais, c'est un beau gun. Premier gun que je fais dans ma vie, il se prend surfboard Hawaii.
Il t'a validé le
surfboard Hawaii.
Le logo, quoi.
Ah ouais, ça c'est... Et à un moment donné, j'ai fait un take-off là, à Guétari en 96 avec, et je reviens. Il y a un bon 4 mètres. Hein. Et puis, c'était juste avant les champions du monde d'Oxbow, le samedi, là. Et je reviens, et puis je passe devant un vieux avec des moustaches grisonnantes, et après, l'autre mec, un Hawaïen, tout. Et puis, il me regarde comme ça, il était à l'eau. Puis, il me fait « Hey !» Il me regarde comme ça, et puis il me sourit, et puis il me dit « Nice board !» Je passe à côté, je dis « Ouais, ouais, ok, merci, toi. » J'ai dit, pourquoi il me dit ça, quoi? Tu vois? Alors, c'était Buffalo Kelowna, quoi. Donc il y avait Dwayne Desoto à l'eau, il y avait son fils, il y avait Brian Kiolana, tu vois, mais Dwayne, lui, il fracassait grave. Et là, je remonte, et puis là, je vois un mec, il démarre, il est de dos comme moi, il démarre, et puis, ouah, qu'il se visse dans la vague, et là, tu vois, toute la planche monte, il est perché vertical, il est comme ça, il est droit dans la vague, il démarre, et tiens, il démarre comme ça, et puis à un moment donné, la vague, elle lève comme ça, il sort de la vague, et quand tant qu'il se mette comme ça, il visse, il est droit. Tu vois, t'es vertical, t'as le tail, il est là, le nose, il est là, t'as un peu de pente, mais il visse la planche comme ça. Il est dans la paroi, t'as le lip derrière au-dessus de lui qui s'en va. Lui, il est un, et le mec, il fait le grabrail, il grappe, il a le pied arrière comme ça, il est comme ça, il a le nose en bas, il fait. Et là, tu vois que la planche, elle. Tu vois toute la planche qui se met comme ça dessus, quoi, qui se met dans la vague, avec la vague qui vient toucher le tail de la planche comme ça, et le mec, il est comme ça, le lip qui s'en va comme ça, qui est. Oververte, tu vois, c'est le tail touche la vague qui est oververte, quoi, qui est en train de basculer. Il était à le truc qui la courbure, et là tu vois le truc, tu vois le mec qui fait le vissage comme ça, et là tu regardes ça, et ben ouais. Après, quand je suis sorti d'ailleurs, ils sont venus voir, ils ont vu le surfboard à Hawaii, putain, c'est quoi ça? Et de suite, ils vont voir le JR, ils sont là, putain, ils me disent, mais c'est qui ça? C'est le Brewer, il a var, hein, sur le bordel là. Et il ne donne pas à tout le monde, hein. Il le donne à Rawson, il le donne à Chapman, il le donnait, tu vois, à Reno Iberia quand il surfait, quand il chépait, je sais pas si Jay Lopez, oui peut-être, tu vois, mais principalement Rawson, quoi. Et là, moi, je l'ai chopé. Ça, c'est ma plus grande fierté.
Ouais, c'est pas mal, je pense que
oui,
c'est difficile de faire plus là.
Premier gun,
96, tu n'avais pas encore beaucoup d'années de.
Non, j'étais à. Je crois que c'était ma 186e planche, ça là. Je ne compte plus maintenant. Et c'était ma 186e planche. Mais bon. Voilà. J'étais maintenant à Hawaii, je travaillais avec Kim Purrington, tu vois. Il y avait Rakawa qui chépait, puis à un moment donné, il y a Rakawa, il vient, il dit à Kim Purrington, allez, c'est pas comme ça. Et l'autre, il dit, ah, fuck off. Ça faisait 15 ans qu'il chépait avec lui. Là, ils étaient sous le label HIC, Hawaiian Alliance Creation, et Kim Purrington shippait des Rakawa, mais en Shadow Shaper. Il lui disait, ah là, putain, le rail, il rentre pas, tu vois. Il lui disait, putain, fais-moi rentrer le rail là, ici, comme ça, donne le petit mouvement, le petit volume, et rentre le rail un petit peu dessous, donne le petit bevel là-dedans, tu sais, le faire rentrer un petit peu dessous. Il était un peu droit, Kim Purrington, et il lui disait, fais pas trop de volume ici, rentre-le et fais-le rentrer ici, tu vois. Et l'autre, il avait du mal. Puis il me dit, ah, fuck. Il dit, moi, je chèpe comme je chèpe. Il fait, ouais, mais moi, je te paye pour le faire. Mais ils sont copains, hein, tous les deux. Et le truc, je regarde ça. Moi, je me fais ma 7-2 et une, je sais plus, 6-2, je crois, aussi, tu vois, pour Hawaii. Je me fais des planches en même temps pour moi, tu vois. Et moi, j'avais plutôt des rails à la façon plutôt Carper, quoi. J'étais plutôt dans les volumes Carper sur l'arrière, surtout pour les petites planches préférées, parce qu'il y avait un tempo dans la vague, tu vois, il y avait un truc qui était plus dans le pop, quoi.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont de particulier?
Carper, il envoyait des rails avec un peu plus de partie haute comme ça, tu vois, un peu plus de plat comme ça ici. Il était un peu plus avec un volume, avec une partie haute, alors qu'à l'époque, Rakawa, lui, était plus couché et plus rond, quoi. Moi, je préférais ça dans les shortboards, tu vois. Ça donne un pop, tu vois, le truc, là. Ça donne un certain pop, un certain volume. Je tends la courbe comme ça, ici. Je mets le point haut, l'apex un peu haut. Je couche ici, j'arrondis. Mais tu vois, c'est un petit peu... Ça fait comme un petit peu boxy, sans trop l'être. Et là, le truc, je fais... Bon, je fais les planches, mais pas comme je fais d'habitude. C'est-à-dire plutôt dans le style tendance un petit peu Carper. Et là, je me fais deux planches style Arakawa. Là, t'as Kim Purrington, il vient me voir après, il me disait, dis là, ces pieds là, c'est tes rails que tu fais d'habitude. Je lui dis, ouais. Et il me dit, mais là, t'as fait les rails d'Arakawa. Je lui fais, oui. Et il fallait que je trouve du boulot. Donc il fallait un peu s'adapter. Et l'autre, il me dit, fuck, ça fait 15 ans que je bosse avec lui, ça fait 15 ans que j'ai du mal à faire ces rails, et toi, t'arrives, tu les fais comme ça.
Comment t'es arrivé à le faire?
Ben, j'ai regardé, moi j'analyse. Je me dis, bon là, il y a un apex de combien? Moi, normalement, je travaille avec un point d'apex à ce niveau-là, parce que moi, je cote, je te montrerai après. Je cote les planches, tout. Hein. J'ai 230 cotes sur une shortboard, sur un 6 pieds.
Ah
Ouais, 230 quoi, 206 pieds. Et puis que tu sois le plus mauvais ou le meilleur, c'est pareil. T'as le droit à ça. Donc je le fais comme ça. Et je fais le truc. Et là, j'ai dit, mais là, je vais diminuer ça ici. Parce que regarde, alors, si moi je suis ici, donc quand tu spécules, tu dis là, j'en baisse comme ça, je monte les volumes ici, tout, et hop, hop, hop. Et je lui fais ses rails. Et l'autre, il était écœuré, quoi. Après, c'est une remise en question de soi. Toujours pareil. T'as beau avoir le melon, à un moment donné, il faut que tu poses le melon et que tu sois humble dans ce que tu fais. C'est ça qui est hyper important.
C'est une approche hyper méthodique aussi.
Oui, alors c'est ça.
C'est pas du feeling, quoi. Enfin, pas que, quoi.
Non, c'est pas que. Mais il ne faut pas bouffer le feeling non plus. Faut trouver. C'est ce que j'explique à Nico. Je dis, de temps en temps, laisse tomber les chiffres, laisse parler les feelings, les trucs, regarde pas trop les codes. Des fois, tu sais que t'as la base, laisse glisser. Et puis après, tu cotes après, tu regardes après ce que t'as fait. Des fois, laisse parler. Sinon, tu te mets dans un carcan et tu ne sais plus bouger du carcan. Donc, il faut être structuré, mais il faut laisser la place à la créativité. Mais dans la créativité, je veux dire pas la créativité grossière dans le style, dans la créativité des paramètres. Ça, c'est autre chose. Tu laisses une fluidité dans la finesse.
On enchaîne avec un de ses guns actuels et un souvenir de session à Guétari.
C'est une grosse planche, mais qui reste très facile. Elle est toute en belly devant, avec beaucoup de belly sur la partie là, entre 2 et 3 pieds de l'avant. Donc, c'est-à-dire beaucoup de transition sur le pied avant. Tu vois, là, ici, tu essayes de caler la vision entre là et là, de mettre ça juste à effacer ça ici et de trouver le point ici. Tu verras que là, il y a, dans cette zone-là, il y a du concave. Tu vois, on est sur 9 mm de convexe, pardon. Tu vois, là, je me mets comme ça ici. J'ai 9 mm de convexe sur cette planche-là. Sur la partie avant, et quand tu recules vers le milieu, alors, tu vois, regarde, il y en a moins. Après, je redonne du vis sur l'arrière, et à la fin, je lifte le tel, mais je reviens glisser comme ça, ici, un peu en tension, ce qui fait que j'ai toute une courbure qui est très smooth, qui évolue doucement, qui est toujours le plus tendu à peu près ici, un peu devant les dérives, on va dire entre un pied et demi et trois pieds de l'arrière. Ça, c'est les zones tendues sur cette planche-là. Mais en faisant en sorte de pas avoir trop de tension, justement. C'est l'endroit où j'en mets moins de où je tends la planche, mais je mets moins de vie pour justement redonner de la courbure. Donc, j'ai une planche qui monte au planning, mais en même temps qui bouge, qui est souple, qui est facile, avec beaucoup de mouvement sur le pied avant. Elle rentre dans la vague de dos, comme ça. Beau, elle y va toute seule. Quand tu fais des guettes à 3,50, j'en ai fait des petits 4 mètres avec ça, mais des 3,50, bon, maintenant, depuis 2018, je ne suis plus trop en forme. C'est-à-dire que, les dernières fois où je surfais Guétari, mais des petits Guétari, c'est 2021, voilà, janvier 2021, mais des petits 3 mètres, quoi. Des 3 mètres, quoi. C'est pas vraiment Guétari, c'est une vague cool. Mais quand tu commences à rentrer sur 3,50, là, ça devient un autre sport. Il y a 4 mètres, tu y es. C'est-à-dire que Guétari, c'est pas une vague méchante. Pour une boîte, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand elle commence à avoir de la masse et que tu te fais traîner sur 250 mètres sous l'eau en 3 vagues, voire 300 mètres. Les deux premières vagues, elles sont très longues. La troisième, elle est courte normalement. Tu es déjà sur le rift de Parlementière. Là, c'est long. C'est très long. Quand tu te fais dans une branlée, que tu te fais. Que tu te fais 40 secondes d'apnée, que tu fais plus de 30 secondes d'apnée, c'est long, quoi. C'est, tu vois, quand tu commences à arriver à 20 secondes, quand tu commences à arriver à 20 secondes de branler sur de branler sous l'eau, tu te fais brasser pendant 20 secondes, ça commence à faire long. Chaque seconde qui excède les 20 secondes devient une souffrance, quoi. Jusqu'au moment où carrément t'as plus de souffrance. Ça m'est arrivé quelques fois, ça. T'as plus de souffrance, ça veut dire que t'es en stade 2 de noyade. Ouais. C'est-à-dire que t'as un level de gaz carbonique qui est tellement élevé que tu perds tes sensations de douleur. Et là, tu commences à réfléchir à toute ta vie. C'est sympa. Puis tout d'un coup, tu arrives tu flottes et là, tu respires, tu fais. Et là, ça te décalbombe l'ésophage. T'es brûlé, ça te brûle l'ésophage chaque fois. T'es là. Ça fait mal là. Quand ça fait mal là, parce que tu étais un peu stone sous l'eau, c'est que tu commences à flirter avec la vie. Mmh. Avec la mort, pardon.
C'est le moment de sortir de l'eau.
C'est le moment de sortir de l'eau, c'est chaud. Donc ça, c'est des planches très sympas. pour surfer ces trucs-là, mais que je surfe malheureusement de moins en moins, parce qu'étant de plus en plus vieux et de moins en moins en forme, je vais quand même essayer de vivre un peu, quoi.
Enfin, Didier a fait pas mal de planches de towin, planches sur lesquelles les surfeurs se font tracter par un jet ski sur de très grosses vagues. Comme l'explique Didier, c'est un shape à part entre gun et petite planche.
À une certaine époque, je faisais plein de towing pour les mecs qui faisaient du towing, qui shootaient quoi quand même. Hein. Une fois, j'ai eu reçu un coup de fil, j'étais en Israël, je bossais en Israël, et un après-midi, je reçois un coup de fil, Sancho, Benjamin Sanchis. Mais Didier, j'ai surfé le towing là. Et ben, j'ai essayé directement le towing sans jamais l'avoir surfé, je l'ai essayé directement, il y avait 4 mètres. Alors lui, quand il dit 4 mètres, moi normalement je vois 5-6 mètres. Généralement, toi, je rajoute au moins un mètre de plus, parce qu'ils ont des mètres qui sont hyper larges. Je ne sais pas comment ils mesurent les vagues, mais ils ont des mètres très larges, quoi. Je pense qu'ils ont des mètres qui font à peu près entre 1m20 et 1m50, ça dépend un petit peu, ouais. Quoi. Donc le mec, il me dit, ouais, je surfais 4 mètres. Ouais, alors peut-être dans le barrel, 4 mètres dans le barrel, voilà. On va dire. Voilà, 4 mètres dans le barrel, à Tiopo, avec ton taux, là, le dernier taux que j'avais fait. Je dis, ah bah super, alors il marche bien. Et l'autre, il me fait, mais tu te rends compte de ce que je te dis? J'avais jamais surfé towing, je ne l'ai même pas essayé, j'étais me mettre directement, tracté direct, 4 mètres. J'étais là, tu t'es dit, ah ouais, ok. Il me dit, je risque ma vie quand même. Il n'avait jamais ridé, même pas une petite vague avec, il s'est mis directement dans un énorme paquet, quoi. Ça fait froid dans le dos. Bon, c'est beau à voir, mais moi, je ne peux pas m'imaginer là-dedans, quoi. Enfin, on ne peut pas en général s'imaginer là-dedans. C'est réservé à une certaine élite du surf. Mais c'est bonheur. Donc ça, pareil, quand la première fois que j'ai fait un towing, c'est Fred Robin qui m'a demandé de faire un towing. Il m'a dit, t'as déjà fait un towing? Non. Tu te sens capable de faire un towing? Ouais, écoute, je vais regarder. Donc je regarde un peu sur Internet, je me renseigne un petit peu, je regarde les photos, les machins, tout. Je rappelle, je dis, ouais, bon, j'ai une idée de ce que je vais faire. On avait déjà défini, il voulait surfer backyard les cunus, tu vois, backyard à gravière, un 2,50 3 mètres backyard à gravière, tu te fais lancer en taux et au bout t'es directement dans une vague qui envoie, mais t'as des parties plates au début. Donc il faut glisser sur les parties plates, tu te lances, la vague elle est plate, il faut que tu cherches l'endroit tout en glissant, où est-ce que tu vas te caler pour rentrer dans le creux, dans la porte qui va te porter, que tu vas pas te prendre dans la gueule, dans l'ouverture de la vague et que tu vas rider la vague, tu vois. C'est un peu compliqué le jeu est un peu compliqué. Donc en planche à la rame, elle est compliquée à faire, tu vois, c'est toujours des bouts de vague que tu vas prendre au bout, puis tu prends pas vraiment les beaux murs, quoi. Donc, il me demande de faire ça. Bon, j'ai fait la planche. Donc, Jean l'a glacé. Ils sont tous venus. Hein. Il y a Lietz qui est passé. Il y a Benetrix qui est passé. Sancho est passé. Fredo est venu voir sa planche. Tout. Ils sont tous passés. Ils ont dit, ça ne marchera pas. Puis Fredo, il a surfé. Puis il a prêté à Sancho. Et puis il a dit, oh putain, ouais, ça marche. Donc, du coup, il m'en a commandé une. Et puis, c'est parti. Puis après, ils ont tous eu des planches à moi, quoi. Tu vois, ils sont... Ce fois Benetrix, Saint-Jean, tout, ils avaient des boards, quoi. Moi, ça me faisait plaisir de faire des planches à des super riders, des trucs, tu vois. Et alors, le principe, la base, ce que j'ai fait, j'ai pris mes coordonnées, mes bases. Je me suis dit, quelle est la outline? Quelle est la planche? Quelle est la outline qui gaze bien à pipeline dans le creux? Le petit gun 7-6 et 3, avait des lignes à bureau cœur, tout, qui envoyaient bien. T'avais 4 mètres à pipeline, tu vois, quand ils ont du 8 pieds, plus la 7-6, ou entre 7-2 et 7-6, mais la 7-6, c'est vraiment la planche maîtresse, quoi. Tu drives, t'as une grande planche, c'est un peu dur à surfer le foam ball avec activité, mais la planche, elle a un drive, elle a une vitesse, elle est bonne, quoi. Alors déjà, je me suis dit, base de la 7-6. La base, c'est 4,2 mètres. 4 mètres 2 de base de hotline. C'est le rayon principal, c'est 4,2. J'applique ça. Donc je pars sur cette base. Après, ils avaient des planches, tu vois, mais ils avaient des mètres beaux qui étaient un peu reculés, un peu à l'arrière du pied avant. Je me suis dit, putain, clapot, le machin quand même. J'ai dit, même si tu fais une planche courte, il faut quand même venir taper le mètre beau sur le pied avant, quoi. Il faut être sur le mètre beau. C'est-à-dire, on prend le plus large, voir le pied avant sur le mètre beau, ça me semblait logique, quoi. Et après, tu tapes ta courbe et après, tu fais une courbe de petite planche. Après, tu peux serrer, tu vois. Mais après, tu as toute cette partie de la planche là, bam, c'est la base, c'est 4,2. 4m2, tu vois, tu peux descendre à 1, 3, 6, 4 mètres, mais la base, c'est 4,2, quoi.
De rayon de courbure.
Et après, tu cintres un petit peu derrière, mais pas trop. Mais comme c'est des planches assez étroites, tu cintres un petit peu et tu donnes un peu, tu effaces un peu les mouvements pour arriver à avoir des trucs qui ne coincent pas quand tu manœuvres. Et après, tu te dis, la planche, quand tu es sur le plat qui te tracte, la bague, elle est plate. Hein. Et là, il faut avoir de la vitesse pour rentrer, être dans le tempo de la vague, pas se retrouver être en retard, parce que si tu stalles dans la vague, t'es mort. Donc s'il faut que tu ailles à 10-15 mètres devant, à balle, que la vague elle est encore plate, mais que tu vois que ça va lever à 10-15 mètres devant, un peu en contrebas, il faut y aller, mais il faut y aller vite. Donc pour y aller vite, il faut un certain plat, une certaine courbure de rocker. Tu regardes quelles sont les vagues qui sont plates et qui, où tu as les guns qui marchent sur les vagues plates, il faut que ça aille vite. Ils ont des bases rockers. On est sur des bases rockers aux alentours 3-6, 3-8, tu vois. Ouais, là on est 3-6, 3-8 de plongée sur un pied de long.
De plongée, ouais,
okay. Sur un pied de long, 3 mm 6, 3 mm 8, tu vois. Tu sais qu'il ne faut pas aller dans le 4 mm, que le 4 mm entre les deux pieds, il limite. Il faut être plus bas. Mais tu sais que si tu fais un 3-1, 3-2, ça reste un peu raide dans le mouvement. C'est la base de à 3 pieds de l'arrière d'un gun de 9-6, 10 pieds. J'ai rien inventé. Hein. Et puis on va créer une base de planning entre les deux appuis qui va être le gun 7-6, entre 7-6 et 10 pieds. Et après, tu joues les artifices, tu redonnes du mouvement, tu redonnes de l'impression. Voilà, je fais. Tu redonnes l'impression que sur le pied avant, quand tu mets le rail, la planche, elle veut tourner. Bam! Si la planche, elle est trop tendue partout, tu fais un stern, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu stalles. La planche, elle break l'eau. Elle arrondit pas. Donc là, il faut une planche qui bouge, qui vive, mais en même temps, qui ait des drives longs. C'est pas évident à faire un bon tour.
Et voilà pour ce 4e épisode consacré à Toy Surfboards. Merci à Didier d'avoir pris le temps de participer au podcast et d'avoir partagé toutes ses histoires et précieux enseignements. Rendez-vous sur le site de Didier, toysurfboards.com, ou sur son Instagram, toysurfboards-didier.damestoy, pour découvrir le reste de son travail et suivre son actualité. Vous retrouverez tous ces liens sur notre site et compte Instagram. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez également suivre le compte Instagram shape.ology pour découvrir le reportage photo de l'épisode et aussi pour être au courant des prochaines sorties. Enfin, rendez-vous sur le site shapeology.fr où vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes, de nos reportages, mais aussi un lexique, un annuaire des shapers français et plein d'autres contenus à venir. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.